I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vladimir Poutine isolé comme jamais, c'est ce qu'estiment certains. Mais alors, qu'en est-il réellement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sujet à la une aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On en a déjà parlé un petit peu hier, mais le discours du président russe Vladimir Poutine a marqué un véritable tournant dans cette guerre en Ukraine. Les réactions d'ailleurs se multiplient encore ce jeudi. Mais alors, que peut-il se passer concrètement, et peut-on réellement dire que la Russie est plus que jamais isolée? On va voir ce qu'il en est réellement ensemble. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, très rapidement, en fait, Vladimir Poutine a prononcé un discours ce mercredi à la télévision. Il a annoncé notamment une mobilisation partielle de la société russe pour combattre en Ukraine. Concrètement, c'est près de 300 000 personnes qui vont rejoindre l'armée russe dans les prochains jours. Par ailleurs, il a aussi confirmé l'organisation de référendums d'indépendance dans quatre régions ukrainiennes qui sont actuellement contrôlées par l'armée russe. Et enfin, il a aussi menacé les pays occidentaux d'utiliser, je cite, « toutes les armes à sa disposition si jamais les intérêts de la Russie étaient menacés ». Alors forcément, déjà du côté des pays occidentaux, les relations ont sans doute ne se sont pas apaisées. On peut noter notamment que les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne ont déjà convenu de mettre en place de nouvelles sanctions contre la Russie. Des sanctions qui devraient viser certains secteurs de l'économie russe, mais aussi, je cite, des individus responsables de la guerre et de l'agression contre l'Ukraine. Par ailleurs, l'Union européenne a aussi décidé d'augmenter encore une fois les livraisons d'armes à l'Ukraine. Autre exemple du côté des Occidentaux pour commencer, Emmanuel Macron a appelé les pays du monde, je cite, à mettre le maximum de pression sur Vladimir Poutine. En l'occurrence, du côté des pays occidentaux, Union européenne, États-Unis, etc., c'est pas étonnant, on sait que ces pays soutiennent déjà activement l'Ukraine. Ce n'est donc pas une nouveauté, mais cela dit, d'autres pays ont fait évoluer leur position ces derniers jours. Bon, déjà, parlons de la Chine, qui jusqu'ici ne s'était pas vraiment positionnée pour éviter de froisser la Russie, et qui au contraire développait des liens économiques. Eh bien, la Chine a appelé pour la première fois à un cessez-le-feu. La Chine s'est même dit, je cite, « prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation ». Ensuite, dans les pays qui ont fait un petit peu évoluer leur position, on peut parler de la Turquie. La Turquie qui n'a pas du tout coupé ses relations avec la Russie depuis le début de la guerre. Eh bien, le pays a tout de même condamné justement ces référendums russes organisés en Ukraine, dans ces régions à l'est de l'Ukraine, en affirmant qu'elle n'allait pas reconnaître les résultats de ces référendums qui sont jugés illégaux. C'est donc des évolutions ou des discours qui changent un peu avec ce qu'on a pu entendre ces derniers mois. Mais pour autant, Vladimir Poutine est-il réellement isolé? Eh bien, en l'occurrence, pas vraiment. Bon, déjà, malgré leur déclaration de mercredi, la Chine et la Turquie restent des partenaires de la Russie, surtout sur le plan économique. La semaine dernière encore, d'ailleurs, on en parlait dans les actus du jour sur cette chaîne, le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés lors d'une conférence en Ouzbékistan. Ils avaient convenu justement de renforcer leur coopération sur plusieurs sujets économiques et militaire. Autrement dit donc, des liens restent très présents. Et on imagine mal la Russie ou la Chine mettre fin à tout ça tout de suite. Par ailleurs, du côté de la Turquie, puisqu'on parlait de ce pays-là, la Turquie n'a toujours pas appliqué de sanctions économiques contre la Russie et elle continue d'être une grande acheteuse de pétrole et de gaz venant de Russie. Par ailleurs, politiquement, les présidents Poutine et Erdogan partagent, selon plusieurs experts, le même sentiment d'être rejetés aujourd'hui par les pays occidentaux. Ensuite, il faut bien noter que à l'échelle internationale, beaucoup de pays du monde restent non alignés dans cette guerre et n'ont pas, fermement pris de position contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et si on regarde par exemple quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, quel pays avait condamné cette invasion ? Eh bien, une majorité de pays l'avait fait, certes, même si 35 pays s'étaient déjà abstenus. Et par ailleurs, ensuite, concernant les sanctions, il faut bien comprendre que très peu de pays ont suivi finalement les sanctions prises par les pays occidentaux contre la Russie. On le voit par exemple pour ceux qui regardent sur YouTube et pas en podcast sur cette carte de l'Iris. En fait, seuls l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour ont suivi les sanctions et la Colombie, l'Équateur ou encore le Paraguay s'étaient dit solidaires des sanctions. Ça reste donc pas mal de pays, mais c'est pas pour autant des sanctions unanimes de la communauté internationale. Bref, c'est un sujet qui est forcément très complexe mais qui me semblait assez intéressant à analyser pour voir réellement ce qu'il en est aujourd'hui. Pour résumer donc, certes, il y a eu un renforcement des sanctions des Occidentaux. Il y a eu aussi un petit changement de discours de la part de certains partenaires économiques de la Russie. Pour autant, pas d'évolution absolument majeure, en tout cas pour le moment. Évidemment, on va rester vigilant et on reparlera très vite forcément de ce sujet. Allez, on poursuit avec les actualités en bref. D'abord, cette première information, le président français Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi le premier parc éolien en mer de France. Il est situé en fait au large de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Ce parc comprend environ 80 éoliennes en mer et il devrait a priori être capable d'alimenter en électricité près de 700 000 personnes. Cette source d'énergie d'ailleurs est amenée à se développer beaucoup en France et dans pas mal d'autres pays du monde. Emmanuel Macron souhaite par exemple créer une quinzaine de parcs éoliens en mer autour de 2035 et arriver à environ 50 parcs éoliens d'ici à 2050. Tout cela est vu comme une alternative notamment aux éoliennes qu'on peut trouver sur Terre. Pourquoi ? Eh bien parce que l'éolien en mer est jugé plus fiable puisque les vents sont plus importants et par ailleurs d'un point de vue esthétique disons, forcément c'est moins vu par les habitants au quotidien. Maintenant, il y a d'autres questions, d'autres interrogations qui apparaissent sur les conséquences éventuelles de ces installations, d'où les débats qu'on a pu entendre notamment lors de la présidentielle. On en reparlera évidemment dans les prochains jours. Deuxième actualité, en Iran, face aux manifestations qui sont très importantes en ce moment, l'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été limité par le gouvernement. C'est ce qu'indiquent en tout cas pas mal de données depuis hier, des données relayées par la Fondation Jean Jaurès, mais aussi des données du site NetBlocks qui montre en fait en direct les connexions et l'activité d'Internet dans le monde. Je vous en parlais hier dans les actualités du jour. Le pays est secoué en fait par de fortes manifestations, le tout après la mort d'une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, il y a quelques jours, morte après avoir été arrêtée 3 jours plus tôt par la police parce qu'elle portait mal son voile, alors que le voile est obligatoire pour les femmes dans le pays. Les manifestations donc en guise de soutien, avec des femmes parfois retirant leur voile, se sont poursuivies pour une 5e journée consécutive. Et la colère s'est aussi étendue, notamment aux universités. Ces coupures d'Internet font donc craindre tout simplement que le gouvernement tente de cacher la situation sur place. En effet, en novembre 2019, lors d'importantes manifestations à l'époque en Iran, 304 manifestants avaient été tués selon l'ONG Amnesty International. Autrement dit donc, on craint une censure avec la coupure d'Internet sur place. Troisième actualité, c'est un chiffre assez intéressant à analyser et à creuser. Selon une nouvelle étude de la banque le Crédit Suisse, le patrimoine médian d'un Français se situe à 128 000 euros. Alors le patrimoine, déjà pour rappel, c'est donc l'argent que possède en quelque sorte une personne, mais c'est pas seulement l'argent sur son compte en banque, c'est plus largement l'argent sur son compte en banque, mais en plus de ça, ses placements ou encore, et là vous allez voir c'est très important, ses propriétés immobilières. Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un appartement à 200 000 euros, ces 200 000 euros comptent dans votre patrimoine. Et quand on parle en l'occurrence de patrimoine médian, ça veut dire donc que 50% des Français, selon cette étude, ont plus de 128 000 euros de patrimoine et 50% ont donc moins de 128 000 euros de patrimoine. Ce qui est intéressant par ailleurs à noter, c'est que cette médiane est supérieure à celle des Allemands par exemple, où la médiane se situe à 55 000 euros, mais aussi de celle des Américains située aux alentours de 82 000 euros. Alors selon le Crédit Suisse, comment expliquer un tel patrimoine médian plus important ? Le Crédit Suisse l'explique par une répartition des richesses un peu plus importante en France par rapport à l'Allemagne ou par rapport aux États-Unis, mais surtout, il y a le fait que les Français sont beaucoup plus propriétaires de leur logement. Or, vous l'avez compris, le fait d'être propriétaire fait forcément grandir très rapidement votre patrimoine. Après, évidemment, cette médiane, elle cache forcément des inégalités entre les personnes ultra riches et les personnes les moins riches. Je me voulais plus d'informations, en tout cas sur cette étude, je vous mets le lien directement en description. Quatrième actualité, l'actualité très rapidement, malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Près de 230 dauphins ont été retrouvés échoués sur une plage de Tasmanie. La Tasmanie, c'est une île au sud de l'Australie. Seuls 35 de ces dauphins ont pu être sauvés, ce qui veut dire que quasiment 200 dauphins sont morts. Il faut savoir qu'une catastrophe similaire s'était déjà produite il y a 2 ans en Tasmanie, et ça arrive également en Nouvelle-Zélande. Alors les scientifiques ont encore pas mal de mal à l'expliquer. Certains estiment que les animaux pourraient se perdre après s'être nourris trop proche des côtes. D'autres estiment que c'est des conséquences du changement climatique, avec un accès à la nourriture qui devient plus compliqué, ou alors une modification de la température de l'eau. Quoi qu'il en soit, ça reste donc un triste bilan. On termine avec une actualité plus positive maintenant. Le Fonds mondial pour le sida, la tuberculose et le paludisme a levé 14,2 milliards de dollars pour lutter forcément contre ces maladies, avec notamment 1,6 milliard de dollars donnés par la France. Donc c'est un peu plus de 10% du total qui a été récolté. Ça a été annoncé dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et c'est en l'occurrence un record pour l'organisation. Ce Fonds mondial donc contre le sida, la tuberculose et le paludisme, il a pour objectif, vous l'aurez compris, d'éradiquer ces maladies, le tout d'ici 2030. Aujourd'hui, près de 650 000 personnes meurent encore du sida chaque année dans le monde, et 1,5 million de personnes meurent chaque année de la tuberculose. C'est un chiffre qui a par ailleurs augmenté par rapport à 2020 pour la première fois en 10 ans, ce qui montre donc qu'une mobilisation est nécessaire. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.